Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue les agents libres, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouvel épisode de First Pitch. Et oui, vous l'écoutez sans doute soit vendredi, soit samedi, soit peut-être un peu plus tard, et pourtant c'est bien moi, Charles, qui suis aux commandes aujourd'hui, et pas avec Chris, mais avec Jérémy. On échange les binômes pour une fois, avant, à une semaine de l'opening day, bah du coup la rotation change un tout petit peu. Et aujourd'hui, du coup, comme je vous ai dit, je suis avec Jérémy. Comment ça va, mon petit Jérémy?
Bonjour Charles, bonjour à tous. Écoute, ça va très bien, content, car hier, ben, c'était la fin de la premier match de l'opening day, on va dire. Donc, content d'avoir vu du baseball pro en saison régulière.
Du baseball qui compte, parce que bon, on ne va pas se le cacher, le spring training, c'est bien pour voir Paul Skenes, Jackson Holliday, ce genre de joueurs. Mais là, hier, effectivement, on a eu les deux premiers matchs. D'ailleurs, vous nous avez peut-être suivi sur Twitch jeudi pour suivre le match numéro 2 qui a duré des plombs. Mais des plombs. Bon, j'avoue, j'ai quand même choisi le bon match. Parce qu'il y a eu de l'action, c'était plutôt sympa, et puis vous avez été super nombreux, donc c'était plutôt agréable de commenter. Mais j'avoue que une heure pour deux manches, j'étais pas serein. Franchement, je me suis dit, non mais le match il va durer jusqu'à 15 heures, c'est pas possible. Mais ce matin, bah il y avait un petit goût de ah, il y a pas de match à 11 heures aujourd'hui. C'est pas terrible. On commence à s'habituer. La MLB nous habitue pas bien. Mais c'est où le series. De toute façon, elles sont au menu de ce podcast. Parce qu'évidemment, on va revenir dessus. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Même si ce sont que les deux premiers matchs, on a quand même décelé 2-3 trucs qui nous plaisent un petit peu moins. On fera aussi un état des rotations pour le début de saison. Puisque maintenant, c'est quasiment arrêté. Hein, à quelques jours de l'opening day, maintenant... Toutes les équipes ont leurs effectifs qui vont être consolidés, et on va pouvoir faire un petit état des rotations, notamment chez les favoris. Donc on va reprendre un petit peu les previews que vous avez pu voir sur le site, et on va parler des rotations des favoris qu'on a classés. On va aussi, c'est un numéro un peu spécial pitcher quand même, parce qu'on va aussi parler de ces aces qui sont blessés, hein, notamment... Toi et moi, Jérémy, on en connaît un rayon, hein, Gerrit Cole, Lucas Giolito, voilà, hein, tous ces lanceurs qui étaient promis normalement,
qui gagnent des millions,
potentiellement l'opening day, et qui du coup le feront dans leur canapé chez eux, à regarder leurs petits copains. On essaiera de comprendre ce qui se passe, quelles solutions la MLB pourrait potentiellement apporter, s'il y en a. Hein, on n'a pas forcément la solution miracle, mais on essaiera de réfléchir à ça. Et puis, bah, avec Jérémy, vous le savez, on est les testeurs un peu officiels de Sony pour MLB The Show 24. On l'a depuis une semaine. On peut vous dire qu'on l'a déjà pas mal, saigné.
Poussé, oui.
Voilà, on l'a déjà pas mal poncé. On va vous faire aussi un petit peu nos retours. Après une semaine de jeu, on n'a pas testé tous les modes de jeu, mais globalement, on a quand même fait pas mal de trucs, et on vous dira rapidement, hein, on ne va pas rentrer dans le détail, un petit peu ce qu'on en pense. J'espère que le menu vous plaît, que vous allez rester avec nous pour les 45 prochaines minutes, parce qu'il y a des choses à dire. Et Jérémy, on va commencer tout de suite avec les Seoul Series. Oui. Premier match de l'histoire de la MLB en Corée du Sud, hein, dans le cadre du MLB World Tour, qui amènera la MLB aussi à Mexico et à Londres. Les 8 et 9 juin prochains, ça va être... Ça me paraît tellement loin, pourtant ce sera tellement vite. C'est un truc de fou. Et bien sûr, on sera sur place pour vous faire vivre tout ça de l'intérieur. Les Dodgers et les Padres, très belle affiche hein, pour commencer. En plus, il y avait un local de l'étape avec Ah-Seong Kim qui du coup revenait à la maison pour jouer. Et puis évidemment, Shohei Ohtani. Le nombre de maillots de Ohtani qu'il y avait dans les tribunes de ce superbe stade, soit dit en passant, à Séoul. Oui. Vraiment très, très 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 beau stade couvert. Donc, premier match mercredi, victoire des Dodgers 5-2. Et hier, victoire 15-11. Oui, vous avez bien entendu. 15-11, victoire des Padres dans un match ultra, ultra offensif. Du coup, bah, les Dodgers ont un bilan de 1-1 et les Padres ont aussi un bilan de 1-1 en tête de la division ouest de la National League. Jérémy, le truc, si on prend ces deux matchs, je pense que toi et moi, on est d'accord, ce que beaucoup auront retenu, c'est les débuts absolument catastrophique de Yoshinobu Yamamoto hier. Une seule manche lancée pour celui qui a été acheté à prix d'or par les Dodgers, hein, on rappelle, hein, 325 millions de dollars. Des débuts difficiles avec, eh ben, je vais vous redonner sa ligne de stats
Et ouais,
pour.
je suis sur la ligne, effectivement, bah, il prend la défaite. Hein.
Déjà.
Voilà.
Il prend la défaite, 4 hits concédés, 5 runs mérités concédés, un but sur balle, 2 strikeouts, ce qui lui confère, et moi ça me fait toujours marrer, une ERA de 45. Voilà. Donc le mec commence à MLB avec une ERA de 45. Des problèmes de commande pour Yamamoto, beaucoup de lancers hors zone. Point positif. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, sa balle courbe qui était absolument splendide, une vraie bonne courbe. Ça, c'est vraiment le point positif. Pour le reste, j'ai vraiment pas grand-chose à redire sur sa performance parce que ça a été. En fait, j'arrive même pas à savoir si c'est Yamamoto qui a été catastrophique ou est-ce que c'est les Padres qui ont été vraiment très bons au bâton.
Bah après, quand on voit, bon, ben, ça sauve pas sa prestation, hein, la balle courbe. Hein. Ok, elle est belle,
Bien sûr.
mais il se prend un triple dès le premier batteur avec Cronenworth, quoi. Donc lui, déjà, il va très vite en plus comme batteur. C'est pour ça qu'il est sur le lead-off. Derrière, c'était archi
C'est bon.
compliqué, archi compliqué. C'était, oh, c'est incroyable. Alors, je sais pas. Honnêtement, là, quand on voit sa ligne de stats, il est tout de suite relevé par Grove qui fait deux manches et Hurt derrière aussi qui refait deux manches. En fait, là, on sent que bah, en fait quand ça part mal, c'est comme dans tout. Quand ça part mal, bah, là on sent que ça va ramer. Et du coup, bah, ça a ramé quand même hier. Donc là, Yamamoto, je pense que. Et je crois que c'est sa philosophie. Il va se remettre en question, il va aller sur la vidéo, il va faire beaucoup d'analyses, et puis après, il va se remettre au travail. Mais c'est sûr que pour une première en MLB, bon, certes, hors des
Oui.
USA, mais chez le voisin quand même coréen, compliqué. C'est sûr qu'on aurait aimé avoir un début un peu plus, je dis pas digne d'un ace, hein, mais un peu plus solide quand même, quoi.
On attendait
Qu'on
tous.
attendait.
Glasnow a fait une partie la veille plutôt correcte. Lui qui sera, bah, qui du coup, oui, mécaniquement a fait l'opening day pour les. Pour les Dodgers, mais il est apparu déjà beaucoup plus solide. Guillaume de Astros France que je salue a dit une chose très juste. On a sans doute vu le pire Yamamoto de la saison parce qu'il faut quand même rappeler que en NPB il était stratosphérique et qu'il n'y a pas de raison particulière pour que ça ne soit pas le cas, ça ne soit pas le cas ici aussi en MLB. Comme tu dis, il va se reprendre, il va étudier. On m'a même suggéré de l'envoyer en minor league pour se refaire un peu la cerise et être de nouveau compétitif. Je suis pas sûr que ce soit nécessaire. De toute façon, là, il va pas relancer avant. Je
Bah,
pense
sûrement
une
le deuxième
bonne
match,
saison.
ouais, c'est ça.
Du coup, les prochains matchs, c'est les cartes. Enfin, prochain match de saison régulière pour les Dodgers, c'est les Cardinals. Donc, on devrait le revoir, à mon avis, à ce moment-là. Mais clairement, déjà, sa deuxième sortie va être déjà très scrutée. On va attendre déjà un rebond de la part de Yamamoto parce que si Si ça prend la même tournure, les probabilités que ça prenne la même tournure quand même sont quand même relativement faibles, ça pourrait commencer à poser des questions. Et je pense que les Dodgers n'ont pas besoin, ça me permet de faire la transition, les Dodgers, je pense, n'ont pas besoin de se poser encore plus de questions qu'ils n'en ont déjà pour certaines autres choses, parce que on a vu en défense particulièrement deux trois trucs qui ont été assez limites, et mon regard se tourne vers la troisième base et Max Muncy qui a fait un match terrible hier, des erreurs, beaucoup d'erreurs coûteuses pour le troisième base des Dodgers. Est-ce que c'est des est-ce que ça peut pas être des erreurs techniques, c'est des erreurs mentales à ce stade-là, quand tu vois et que tu analyses les erreurs qu'il a commises, c'est pas possible. Il n'y a pas de beaucoup de balles qui passent à côté du gant, qui du coup rebondissent. On dirait qu'il n'était pas du tout, du tout, du tout dedans, quoi.
Alors, tu dis Muncy, mais le reste de la défense a eu son lot d'erreurs hier, hein. On va enchaîner après direct sur Mookie Betts, mais quand on voit le troisième base et l'arrêt court, ce côté-là hier a été extrêmement, on va dire, ils ont eu beaucoup de lacunes. Alors après, voilà, moi, c'est pas mon métier, hein, mais franchement, là, il y a eu, on peut le considérer comme des débuts de faute professionnelle, en fait, sur des balles rapides, certes, roulantes. Sur la troisième base ou même avec Mookie Betts au niveau du rattrapage de la balle, c'était vraiment à la limite, oui, voilà, à la limite de la faute professionnelle. Alors, d'accord, il se rattrape Muncy avec allez, 33% d'avantage, enfin, pardon, de moyenne à la batte, mais le reste,
Oui.
c'était
Ah oui, non, non,
incroyable,
on
incroyable.
remet pas en question le côté offensif, on en reparlera après. Justement, c'est plutôt un point positif pour même les deux équipes, hein, parce que là, c'est vrai qu'on s'attarde beaucoup sur les Dodgers, mais chez les Padres, ont quand même concédé aussi 11 points. Ben, c'est pas, ils n'ont pas gagné 15-0, donc il y a
Non, mais
eu
non.
17 hits pour les Padres, 16 pour les Dodgers, là
Ouais.
aussi. Par contre, il n'y a pas eu d'erreur.
Voilà, et il y a eu trois
Aucune erreur.
erreurs. Voilà, c'est
Côté
chez
Padres.
les Dodgers, c'est Muncy et Outman. Voilà. Donc deux erreurs en fielding pour Muncy et un au lancer pour Outman. Voilà. Donc, comme ça. Donc elle est pour sa pomme, hein, à Max, hein, voilà, hein, ça. Est-ce que c'est le fait du décalage horaire? Est-ce que c'est le fait de
C'est le
voilà,
début de saison.
tu pars faire ton 1 mois de spring training, derrière tu t'enquilles direct sur un voyage en Corée, l'acclimatation. Alors je sais qu'ils font beaucoup de voyages, hein, tout au long de l'année, mais là on part quand même à l'autre bout du Pacifique, donc je sais pas, peut-être qu'il y a eu la fatigue, hein, tout bonnement. Hein. Après peut-être qu'ils étaient fatigués. Voilà.
Oui, ça peut être ça, ça peut être. On le sait en plus, on le voit généralement, les plus grosses erreurs arrivent au mois d'avril, hein, sur le début de saison, quand on remet la machine en route. Parce que oui, il y a eu un mois de sprint training, mais pour la plupart, ils ont fait 35, 40 passages au bâton, et puis ils jouent 3-4 manches, et puis après ils sortent. Y a pas. Voilà, c'est vraiment de la remise en condition physique. Après, pour l'intensité, la pression qui est différente aussi, bah ça peut, ça joue, et c'est vrai que les débuts de saison, généralement, c'est là où tu vois le plus, d'erreurs, que ce soit chez les lanceurs ou que ce soit chez les joueurs en défense, parce que en plus, ils ont eu beaucoup de travail, parce que les lanceurs, on disait, donc Yamamoto a cristallisé vraiment l'attention, parce que c'était ses débuts, parce que il y a le contrat, parce que c'est les Dodgers. En tout, il y a eu 7 lanceurs chez les Dodgers. Il n'y en a pas un qui a fait quelque chose de relativement correct.
Ah, sur le match d'hier, non, c'est sûr.
Le seul qui ne concède pas de points, c'est Yarbrough. C'est le seul. Il ne concède pas de points mérités. C'est le seul, vraiment. Il y a un point qui est généré quand il passe sur sa manche de tiers, mais c'est pas un point mérité. Il y a Varland aussi pour la dernière manche. Mais bon, le mec, ouais, il a lancé, il a retiré un seul. Il avait qu'un seul mec à retirer, donc ça ne compte pas. Donc ça a été pas très bon. De l'autre côté, au final, c'est pareil. Musgrove, il fait deux manches, deux tiers, il concède 7 coups sûrs, 5 runs, 5 points mérités, 2 buts sur balle, 2 retraits au bâton. Alors évidemment, son ERA est quand même bien meilleur que celle de Yamamoto, mais 16,88, c'est pas bon. Il fait même pas 3 manches. Derrière, bah, Cosgrove, c'est pas terrible.
C'est pas terrible, il fait un tiers de manche.
Voilà, il fait un tiers de manche. Oui, il fait un tiers de manche, du coup. King, bah, il concède 3 points. Matsui, ça va, mais c'est 2 tiers de manche. Collègue, bon, bah, c'est 2 tiers de manche, mais il y a quand même 2 points mérités. Et Suarez qui termine et qui close. Bon. Bah, les lanceurs n'ont pas été à la fête, ce qui explique aussi le score super élevé.
Exactement.
Mais je reviens sur les Dodgers, j'ai l'impression de m'acharner sur eux, les pauvres. Heureusement que Chris n'est pas là, mais ça contrebalancerait du coup. Il va être content, je pense que je dis ça. Je cristallise sur les Dodgers parce qu'on les attend, ils sont favoris, ils sont projetés à plus de 100 victoires. J'ai encore vu hier des projections où tu les vois à 101 victoires et 61 défaites. On les voit ultra dominants parce que Shohei, parce que Mookie, parce que Yamamoto, parce que Kershaw, Glasnow, etc. Et au final, tu sors de deux matchs où en fait, tu as plus de questionnements que de certitudes. Il y a une certitude, c'est Mookie. Parce que Mookie Betts, il fait 2 sur 4 au premier match, et il fait 4 sur 5 au deuxième. Il claque le premier home run de la saison. Il produit 6 points. Il a été exceptionnel en attaque. Exceptionnel. J'ai rien à dire. Défensivement, et c'était le point qu'on allait aborder, on sent que ce n'est pas son poste shortstop. Ça s'est vu hier. Il y a encore des marques à prendre. Il y a encore. T'as beau être 4 fois Gold Glove. Mais t'es Gold Glove dans le champ extérieur. Ça ne demande pas les mêmes requis. C'est ce que nous disait Chris. Même si Mookie Betts est un athlète exceptionnel, qui est capable, qui est ultra polyvalent, qui est capable de faire plein de choses, ça ne demande pas les mêmes choses. Et les erreurs, Chris disait que c'était un peu une gangrène. Ça commence d'un côté. Et ça commence à se propager un petit peu partout. Et l'exemple du match d'hier est flagrant. Muncy, c'est le patient zéro. Et puis, ça a commencé à se mettre un peu sur Mookie, qui a des balles relativement faciles. Il tergiverse, elle sort du gant, il n'arrive pas bien à les prendre, il arrive à se rattraper. Au final, il y a beaucoup plus de questionnements chez les Dodgers, je trouve. Que de certitude, à mon avis. Sur ces deux premiers matchs, c'est des conclusions au bout de deux matchs. Elles valent ce qu'elles valent. Mais pour une équipe qu'on attend comme ultra favorite,
C'est sûr que sur le moment hier, on se dit bon ben ça va être dur, mais n'oublions pas et on le répète jamais assez. Dans nos podcasts, le baseball est un marathon et pas un sprint. Donc, laissons faire le temps au temps, j'aime bien cette expression, et attendons de voir les All-Star Games, où en sont les Dodgers déjà, ou alors au moins le premier mois ou le deuxième mois, allez, maximum. Mais voilà, il faut leur laisser le temps et je pense que ça va se régler. Après, il y a des petits soucis extra-professionnels aussi avec Otani. Bon, je sais qu'on en parle, mais...
Petite histoire d'argent.
C'est pas ce qui va couler une équipe, mais le joueur en question, qui était proche de son interprète, voilà, il peut se poser des questions. Et donc, du coup, dans la tête, et surtout qu'Otani, cette année, il fait que frapper. Donc c'est sûr que hier, tout le monde l'attendait, hein, le home run d'Otani. Hein, et par deux fois, trois fois, il arrive à la limite. Et puis c'est Tatis Junior qui rattrape toutes ses balles. Donc le clin d'œil était assez marrant. Et après, la petite stat intéressante qu'on a vue hier et que avec Charles, qu'il l'a dit lors du live Twitch, c'est que là, le dans 13 ballpark sur 30, Ohtani aurait fait home run. Voilà. Donc, je pense qu'il faut laisser le temps aux joueurs de champ intérieur de parler entre eux, d'avoir des automatismes, de retravailler. Et derrière, pareil, sur le monticule, eh ben, voilà, on a Yamamoto, on a Glasnow, on a Kershaw. Ouais, ça va. C'est des, ça vraiment va des, du calibre, hein, ça va se mettre en route. Moi, je me fais pas encore de soucis encore pour là-dessus. Mais c'est sûr que c'est bien de relever quand même ce point négatif ouais, du début des deux
premiers matchs. Je pense que pour le coup, Dave Roberts en est conscient. On l'a vu prendre plein de notes hier. On sent qu'il sait qu'il y a des qu'il est en train de... Il teste. Tu sens qu'il teste, il doit tester certaines choses. Il voit ce qui fonctionne, il voit ce qui fonctionne pas. Il sait très bien que de toute façon, les Dodgers ne seront, comme tu l'as dit, hein, c'est un marathon. Et que les Dodgers finissent premier de la saison régulière pour se faire sortir au premier tour comme l'année dernière, on ne retiendra qu'une chose, c'est qu'ils se sont fait sortir au premier tour. Depuis 2007, depuis 2007, c'est la meilleure équipe en saison régulière de toute la MLB, avec, je ne sais plus, je crois que c'est plus de, quasi 60% de victoires. Et le nombre de titres derrière, 1. Et en plus... c'est un titre en saison courte, donc astérisque, tout ce que tu veux, ça compte pas, c'était le Covid, machin, c'était sur terrain neutre, tout ce que tu veux. Donc en plus, ils ont cette étiquette du beau loser, tu sais, cette équipe flamboyante pendant 6 mois et qui disparaît complètement, hein. On a plein d'exemples dans le sport américain professionnel, des exemples comme ça. L'année dernière, les Braves ont été comme ça aussi. Saison régulière monstrueuse, et puis ça fait pchit en playoff. Après, c'est vrai qu'offensivement, les Dodgers, là, pour le coup, moi, c'est vraiment le point positif que je retiens chez eux hier, c'est qu'ils ont été menés 5-0 très rapidement. À aucun moment, à aucun moment, tu les as sentis complètement découragés. Ils sont revenus. On a même eu on n'a pas été juste à un point ou un truc comme ça si début de 9e manche on est à 12-11.
Oui, il y avait un point. Donc, c'est vrai, on se disait s'il y avait walk-off ou pas sur la fin. Voilà.
Ils ont recollé, ils ont aussi cette force là, je pense, cette résilience et cette force mentale là, de ne pas se laisser complètement dépasser par les événements. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose sur lequel Dave Roberts peut s'appuyer en se disant « Bon, bah, en fait, même si c'est un jour sans en défense et au pitching, bah, on est capable, avec... on a quand même Betts en lead-off, Ohtani en 2, Freddy Freeman en 3. Enfin, à un moment donné... t'as 3 anciens MVP comme ça, c'est...
Oui.
C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. La puissance de feu offensive est absolument monumentale. Ouais. Est-ce que tu as un petit mot à rajouter sur ces Séoul Series ?
Eh bien, ça nous a mis en jambes, voilà.
C'est ça, l'apéro.
L'apéro pour jeudi. Alors, on sera en juin sur Londres pour Mets Phillies, qui est une affiche plus qu'alléchante sur le papier. Après, on va voir la prestation des équipes. Ouais. Et par contre, là, en avril, on a Astros Rockies à Mexico. Voilà. Donc là, il en fallait. Hein,
Il faut commissionnaire. Que
commissionnaire Rob Manfred veut que toutes les équipes de MLB jouent au moins une fois à l'extérieur des États-Unis. Donc voilà, il fallait bien que les Rockies sortent des Rocheuses.
Ça se trouve. Ça se trouve. On dit ça, mais ça se trouve.
Non, un très beau match. Hein.
Ça se trouve. Qui sait. Bon, de vous à moi, personne n'y croit, même les fans des Rockies. J'ai vu passer une petite infographie de The Athletic là-dessus. 4,6% des fans des Rockies sont optimistes pour la saison 2024. Je vous laisse imaginer le classement sur les 30 franchises. Ils sont derniers.
Ils sont plus optimistes pour Denver que pour.
C'est ça. Oui, Denver, pour le coup. Pourtant, hein, Denver est une ville où, dans un des sports, au moins, ça va bien.
Voilà. C'est ça.
Donc, l'Opening Day, c'est jeudi. Déjà. Oui. Ça arrive très, 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 très vite. Les effectifs commencent à se mettre en place. On a les dernières petites acquisitions, hein, notamment, bah, par exemple. La nuit dernière, J.D. Martinez qui arrive chez les, chez les Mets pour 12 millions de dollars, bonne acquisition, pour le poste de frappeur désigné. Et côté rotation aussi, ça se met en place maintenant que Blake Snell a enfin trouvé son équipe. On est quasiment prêt. Et on va faire le tour, Jérémy, des rotations des favoris pour en parler un petit peu et pour voir un petit peu où est-ce qu'elle se situe. Est-ce que ça va? Est-ce que
oui, il y a quelque chose à compléter? Écoute, si tu me permets, on va commencer par l'American League Est, la meilleure des divisions de la MLB.
Et ouais.
dans notre preview AL Est, on a mis Baltimore en favori. Et dans Baltimore, on retrouve notre nouveau lanceur qui vient d'arriver de tout droit de Milwaukee, Corbin Burnes, en ace probable, et je pense que c'est même quasiment, c'est sûr, quoi. Hein, ouais, voilà. Grayson Rodriguez, Don Kramer, Tyler Wells, Coley Irvin. Il y a Cal Bradish qui est blessé, et John Means aussi, au coup de gauche, pour info. Voilà. Donc ils ont retardé leur entraînement de printemps. Et donc, ils ont laissé place, on va dire, à Wells et Irvin directement pour effectuer une rotation voilà, propre pour les partants, le temps qu'ils se soignent pour eux. Moi, je reviens sur Corbin Burnes, qui est un véritable atout et ajout de choix et de qualité pour Baltimore. Donc on parle du Cy Young 2021. L'année dernière, il a fait top 8 au Cy Young. Malgré un début de saison qui était un petit peu chaotique pour lui parce qu'il était un peu en conflit avec sa franchise. Mais tout au long de la saison, on va dire qu'il a réussi à mettre de l'eau dans son vin et finalement pour partir là en intersaison. Donc moi, j'ai hâte de voir Corbin lancer à Baltimore. Ça va, on va dire, passer un peu la pommade sur le fait que leur closer préféré, Félix Bautista, se soigne lui de son côté. Donc voilà, donc ça... équilibrer la balance des blessés et de la fraîcheur qui arrive. Donc moi, pour moi, Baltimore, ils ont deux petits nouveaux derrière, le temps que Bradish et Means récupèrent. Mais on a au moins un premier trio de tête qui est, on va dire, l'Ace déjà est super bien. Et après, les deux autres sont vraiment dans la moyenne haute voilà, pour Baltimore.
Ouais. Je rajouterais que Burnes, pour le coup, est vraiment sans doute ce qui manquait aux Orioles. C'est ce qui leur a fait défaut l'année dernière. Ils ont fait une excellente saison régulière. Et arrivé en playoff, on sait que c'est là où tu as besoin d'avoir un ace, un as, vraiment. Et même si possible, si tu en as deux, généralement, c'est encore mieux parce que tu sais que tu peux, sur une série, ça peut être plus simple. Et Burnes apporte ça. Il va apporter cette expérience-là et cette... Ce potentiel-là. Et je pense que tout est bien réfléchi. Baltimore, la reconstruction, on le voit, s'ils sont arrivés là où ils sont aujourd'hui, ils sont passés par des années où vraiment ça a été l'enfer, hein, ouais. Vraiment. Mmh. Mais ça a été construit de manière intelligente, réfléchie. J'aime beaucoup le projet. Et c'est moi qui dis ça, hein. Attention. Hein.
Bon, on les adore, ces Orioles, on les adore.
Mais voilà, quand c'est construit de cette manière-là, on ne peut que valider. Et là, l'ajout de Burnes, c'est peut-être la petite cerise qui manquait, tu vois, pour que le gâteau soit complet. Et pour, je dis pas que c'est ce qui va leur faire gagner les World Series, machin, tout ça, parce que dans la saison, il peut se passer des milliards de trucs. Maintenant, ils sont dans les prétendants, c'est sûr. Là, cette saison, pour moi, avec cette rotation-là, c'est ALCS minimum. Mais vraiment, c'est le minimum syndical pour ces Orioles. Je dis pas que si c'est pas ça, on éclate tout, on vend Rutschman et machin. Non, non, ça sera peut-être considéré un petit peu comme un échec. Mais moi, c'est avec ça, avec cette rotation-là, ALCS minimum.
Ok. Au centre, toujours dans la Ligue américaine, on a mis, nous, les Minnesota Twins. Hein. Pas par défaut, mais parce que c'est l'équipe la plus... le central, quand même, c'est compliqué. C'est franchement... Mais l'année dernière, ils en sont bien sortis, je trouve. Et quand on regarde les 5 partants, Pablo Lopez, Joe Ryan, Bailey Aubert, Chris Paddack et Louis Varland. On sait que le petit Sonny Gray est parti. Donc, ce qui laisse la place à Pablo Lopez de devenir l'ace des Twins. Donc, l'année dernière, il termine avec un ERA à 3,66 pour 194 manches lancées et 234 strikeouts. Donc, on est bien sur l'ace du moment. Surtout que là, ils ont acquis Anthony DeSclafani, mais qui va commencer sur, pareil, une liste des blessés. Donc, en fait, Varland décroche le rôle de cinquième, en fait, titulaire. Voilà. Donc là, Varland, il a 26 ans et il n'a accordé aucun point mérité et il a retiré 11 frappeurs lors du spring training. Alors, OK, on parle de spring training, mais cet entraînement de printemps, quand même, permet de voir aux franchises et aux managers de où en sont les prospects et les petits jeunes pour la saison. Donc, Varland... peut-être une petite pousse prometteuse en fait pour cette année, au moins pour la première moitié, jusqu'à ce que DeSclafani, on va dire, revienne de blessure. Voilà. Après, on a Joe Ryan. Alors, quand je regarde les stats de l'année dernière, Joe Ryan, bon, il est sur un ERA à 4,51, mais il a un pourcentage de victoire-défaite qui est dans le positif. Voilà, on est sur. Dans la moyenne correcte pour ces lanceurs-là chez Minnesota. Voilà, moi, ce que je peux dire sur les Twins. Voilà. Donc, Pablo Lopez, on rappelle, l'ace de cette année chez les Twins.
C'est, tu l'as dit au début, c'est de la grosse question, en fait. C'est, est-ce que les départs de Sonny Gray et de Kenta Maeda aussi?
Oui. Parce qu'il ne
faut pas l'oublier, même si il y a quand même Kenta Maeda. Est-ce qu'ils vont être capables d'élever le niveau? La chance qu'ils ont vraiment, c'est la faiblesse de la division. Parce que clairement, pour aller en playoff dans cette division-là, il faudra la remporter. Point. À la ligne. Quand on voit ce qu'il y a à côté sur les deux autres, c'est impossible de viser une wildcard. Ou alors, il faut être.
Wildcard en deux, non, pas possible.
Wildcard à 99 victoires, quoi. après, effectivement, Pablo Lopez, non. Vraiment très bien. Je pense que c'est ce qui sera capable. Est-ce que derrière. Ils vont être capables de trouver quelqu'un qui viendra aussi un peu épauler.
Voilà. Ah, il est Aubert. L'année dernière, il fait une bonne saison quand même. Ouais. Mieux que son collègue.
Comme on l'a dit, c'est tellement une division où elle n'est pas pour eux, mais voilà. Pas grand chose à dire dessus.
Faut pas qu'il tombe, faut pas qu'il se casse la figure. Voilà, c'est tout.
Alors, par contre, on est d'accord que demain, on apprend que Pablo Lopez est blessé.
Pablo Lopez, il fait un peu ce qu'il fait l'année 2023, c'est sa meilleure saison. Il termine All-Star, il est top 7 du Cy Young. Donc, ça le place en haut de l'affiche.
Ça le place quand même très haut. Donc, attention, quand tu te reposes uniquement sur un lanceur de grosse qualité.
Oui,
d'expérience, c'est pas génial.
Effectivement, ouais. Alors là, on va changer. Ouais, on parlait d'un lanceur de grande qualité. Là, on part à Houston où il y a potentiellement au moins deux pôles de 5 partants qui pourraient être de grande qualité. tellement il y a joueurs. Mais on va rappeler quand même. Framber Valdez, Christian Javier, Hunter Brown, JP France. Et Ronel Blanco. c'est les joueurs qui ne sont pas blessés. Okay.
Oui, parce qu'il y en a quand même un qui est blessé. Voilà.
On ouvre la petite porte de l'infirmerie de Houston. Ah, bonjour Justin, Justin Verlander, José Urquidy, bah, qui commence la saison sur l'injury list, en fait. Là. Donc, voilà, Verlander, il devrait potentiellement commencer à affronter des frappeurs sur la préparation. Par contre, Urquidy, c'est un peu plus compliqué. Il a été diagnostiqué, de ce que j'ai lu, avec une tension musculaire à l'avant-bras. Donc, ça, okay. je pourrais pas te dire, moi, en tant que lanceur, ce que ça engendre, mais je pense que on a pas mal de rééducation.
Oui.
Voilà. Donc, ce qui laisse la porte ouverte à Ronel Blanco. Donc, ils sont en train de se développer. Et voilà, c'est. Je pense que il va suppléer tant qu'il peut. Hein. Voilà, hein. Ouais. Il ne faut pas oublier Lance Marculler Jr. et Luis Garcia qui devraient revenir au milieu de l'été. Voilà,
oui. Aussi. Ouais, oui. Non, mais on est parti. Bon, bah, Houston, Houston will be Houston. Hein. C'est, ça ne change pas. Framber Valdez, qui était juste. Le mec, il a de la glace dans le sang, c'est incroyable. je suis admiratif de ce genre de lanceur où il y a rien, quoi. Ouais. Il laisse rien transpirer, c'est incroyable, vraiment incroyable. Les Astros seront, voilà, leur division est quand même bien fournie. D'ailleurs, là, on ne parle que de la rotation des Astros, mais c'est ce qu'on se disait avant, oui. En préparation. MLB.com a sorti un classement des rotations et le premier, le numéro 1, c'est les Mariners qu'ils ont classé en 1. Donc, bon, quand même, je pense que c'est aussi parce que Justin Verlander potentiellement est aussi en convalescence. Ouais. Mais oui, Houston, une nouvelle fois, va pouvoir se reposer là-dessus. Ça va être... Ils vont être encore favoris. Enfin, je vois pas. Eux aussi, c'est ALCS minimum, World Series minimum, encore une fois. Et on parle pas, ouais, de dynastie parce qu'ils ont pas gagné suffisamment de titres. Mais bon, quand t'es une dynastie dans l'American League.
Bah ouais.
Bah... Ouais. Bah, si cette année ils vont encore en ALCS, va falloir commencer sérieusement à se poser la question. Après, ouais, bon, c'est pas le sujet, mais en termes de rotation, ils ont de quoi tenir. Ils ont des absents, mais il y a de quoi tenir jusqu'à ce qu'ils reviennent. Et ça, c'est quand, oui, même la, c'est quand même, c'est... la très très grosse force de Houston, c'est que bon, bah, Verlander est pas là, bon, c'est pas grave. Les autres reviennent au milieu de l'été. Ok. Parce que, par exemple, les Rangers, ils ont perdu Montgomery. Ouais. Ils ont Max qui est, Mad Max qui est blessé.
Qui est blessé, ouais.
Et qui reviendra qu'au milieu de l'été. Donc, en attendant, il faut que les autres fassent le travail. Là, ils savent que les autres vont faire le travail.
De grandes parties.
Quand les autres vont revenir.
Ouais.
Et ben voilà, ils ont leur rotation 1, A et B. Enfin, genre, c'est. mais qu'ils ont réussi à avoir une équipe B. Tellement c'est fort. Donc, ouais, encore une fois, bravo Houston, parce qu'il y a encore, là aussi, il faut souligner le travail de préservation des... voilà, ils ont des blessés, mais c'est...
Ils arrivent à avoir une profondeur au niveau des partants et même au niveau des releveurs qui est assez étonnante. Et bravo à eux, parce que franchement, c'est un plaisir de les voir lancer chaque année. Ah bah oui, que ce soit dans les moments, on va dire... clutch sur les playoffs, il y a des releveurs qu'on a découvert justement à ce moment-là. Bah, franchement, ils ont été là au rendez-vous.
Donc, c'est un peu ça. Ouais. T'as l'impression qu'ils te sortent de leur chapeau. Tiens, vous le connaissez pas, bah, félicitations, bienvenue à toi. Et bah oui, il est bon.
oui, tout à fait.
Très bon système.
Alors, bah, pour un petit rappel, on le fera pour le spécial Opening Day, mais Corbin Burnes contre les Angels ça sera face à Patrick Sandoval. Voilà. Pour Houston, donc, bah, Framber Valdez qui sera opposé aux Yankees de Nestor Cortes. Oui, monsieur Cortes. Oui. qui est devenu l'ace, on va dire, de New York hein, maintenant. Hein,
vu que en l'absence de Gerrit Cole, voilà. Oui. Oui, avec Rodon, c'est un peu les deux.
C'est ça. Et Pablo Lopez qui sera opposé à Cole Ragans, qui est des Kansas City Royals. Ouais. Voilà pour l'American League des lanceurs partants. On part en National League avec l'Est et nos chouchous depuis le début, Atlanta.
Atlanta,
bah, qui ont un pôle pareil de partant qui est sur le papier et digne de Diamond Dynasty. Avec Max Fried, Spencer Strider, Charlie Morton. Je le mets pour la fin l'autre. Hein. Reynaldo Lopez et le petit dernier qui a 40 et quelques années. Chris Sale, direct de Boston. Voilà. Ouais. Je vais mettre Chris Sale, on va dire, en 4 ou en 5 sur ça, là. Oh, tu dis, wow, il y a quelques années, franchement, c'était...
Ouais. C'est un gros pari. Hein. C'est un gros pari pour les Braves. Hein. C'est un gros pari, mais c'est à l'image des Braves. C'est un pari calculé où ils savent très bien que ouais. Même si ça ne marche pas, bah en fait.
Derrière, tu as la ressource.
Il y a la ressource pour. Ouais. Sale, c'est 151 manches sur les 3 dernières années. D'ailleurs, on parlait de Lopez qui en était à 190 sur une saison.
Ouais.
Voilà. Morton, c'est pareil. Le mec, 40 piges, il est capable de. Il est toujours capable d'être bon. Moi, mon chouchou, j'avoue que pour moi, aujourd'hui, j'étais très content l'année dernière que Gerrit Cole gagne le Cy Young. Il a porté New York, vraiment. Mm. Spencer Strider.
Il a porté New York dans une saison qui était à oublier pour New York.
Qui était condamné. S'il n'était pas condamné. Là, c'était pire. Oui. Mais Spencer Strider, mais ce gars-là a un avenir, mais juste monstrueux. On parlait de Framber Valdez et compagnie. Il fait partie de ces jeunes lanceurs qui sont des machines à strike-out, qui sont capables de durer. On est sur des lanceurs, mais on est sur du calibre à la Verlander, à la Max Scherzer Prime. Là, on parle du très, 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 très haut niveau à Atlanta. Et là aussi, c'est construit à la manière d'Atlanta. Donc, c'est encore... c'est encore là pour soutenir en plus la chance que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais la chance qu'ont les lanceurs des Braves, c'est qu'en plus derrière, en défense, ça tient la route. Donc en plus, tu as ta défense qui tient la route derrière, plus le run support, oh là là, et t'arrives, t'es dans des chaussons, quoi. Tu sais, ils t'ont mis tes chaussons sur le monticule, là, t'as plus qu'à rentrer
les
dedans. Les pieds sous la table. Allez, hop, je vais jouer 5 manches aujourd'hui. Je sais que je ne vais pas concéder un seul point parce que derrière, ça joue. Et parce que moi aussi, je suis sûr de ma force. Et... Tranquille. Atlanta est parti pour... La dynastie qu'on attend, c'est celle-ci, en fait. C'est vraiment celle-ci. Ils ont gagné en 2021. Oui, 2021.
Ouais.
Ils ont été au World Series en 2022. Il y a eu l'échec l'année dernière, parce que c'est un échec quand tu fais une saison de ce calibre-là. Donc là, on attend le rebond et on attend, là aussi, je parlais pour les Orioles d'un ALCS minimum. Là, c'est le titre ou rien, en fait.
Ouais, c'est obligatoire, c'est le minimum syndical, obligé, c'est mais même s'ils se font choper à chaque fois pour les Phillies, par les Phillies à chaque fois, peu cher. Mais on leur demande encore, hein, mais oui, aller jusqu'au Championship Series, franchement. Il le mérite, hein. Pas que les autres le méritent pas, hein, mais franchement, on est dégoûté pour eux à chaque fois parce que toute l'année ils sont là sous le radar. On le répète, sous le radar à chaque fois.
Ouais.
Strider va arriver aux 300 strikeouts, je pense, cette saison. Après, faut pas oublier qu'il y a Max Fried aussi. Hein. Il a été blessé l'année dernière, certes, mais petit Max Fried en 2022, il est Cy Young top 2, il est All-Star, il est Gold Glove. Donc, et l'année suivante, pareil. Et l'année encore d'avant, l'année qui compte pas, voilà, mais bon, il fait quand même top 5 Cy Young et il a un Gold Glove aussi. Et il a un meilleur ERA que Strider. Donc, on a potentiellement deux prétendants MVP Deux, en plus. Papier retraité, la balance est équilibrée peut-être pour Atlanta au niveau des rotations.
C'est ça, avec un releveur qui peut peut-être se montrer pertinent, voilà. En mineur aussi. C'est Atlanta. C'est pour ça que je comparais les Orioles tout à l'heure à Atlanta. C'est qu'on est sur cette dynamique de construction où c'est des jeunes joueurs, parce que l'équipe, de manière générale, reste quand même très jeune. Ces jeunes, on leur fait confiance, on les met dans les bonnes conditions, on voit à long terme. On n'est pas sur du Steve Cohen qui veut gagner tout de suite. On sait que ça prend un peu de temps. Ils ont eu de la chance d'avoir de la réussite rapidement, parce que c'est revenu très rapidement. Ça fait 3 ans qu'ils sont au top niveau. On entame l'an 4 et il faut que ça se concrétise. Et parce que la fenêtre, on aime bien parler de fenêtre de titre, pour eux, elle n'est pas fermée, hein, elle est encore grande ouverte. Les joueurs sont encore jeunes et tous sous contrat, Strider aussi. Donc voilà, s'ils gagnent maintenant, c'est bien. Si c'est que l'année prochaine, ce n'est pas si grave que ça au final. Parce qu'ils ont encore, ils ont eu cette intelligence de voir à long terme.
On enchaîne sur le NL Central. Avec, on a mis les Cubs. Oui, c'est vrai qu'avec Nicolas, on avait une discussion sur qui mettre au centre. Et finalement, notre choix est allé sur les Cubs, même si on les avait pas mis favoris. Si on les avait mis favoris au centre, je ne m'en souviens plus. J'avais pas fait la preview. Je crois que oui. Là, on retrouve un petit gars qu'on avait bien aimé au London Series l'année dernière, Justin Steele. Après, il y a Kyle Hendricks, Shota Imanaga, Drew Smiley et Jordan Wicks. En fait, il y a un blessé encore. Hein, voilà. Donc, il faut savoir que Justin Steele est retenu comme lanceur partant lors de l'Opening Day. Et Jameson Taylor, il est blessé en bas du dos. Voilà. Donc en fait, il y a eu pas mal de postes vacants dans la rotation des partants. Donc, il y a eu un petit melting pot, releveur partant chez les Cubs. Mais on a une première ossature qui est pas mal, parce qu'on a vu Imanaga qui fait un très bon entraînement de printemps. Donc, encourageant pour lui. Par contre, Justin Steele, qui lui, je pense, il va décoller cette saison. Il a déjà commencé à décoller l'année dernière. Là, cette année, on est sur quelqu'un qui, je pense, qui va mouiller le maillot pour l'équipe.
C'est ça.
Tout simplement.
De manière générale, les Cubs, c'est vraiment pour moi le vrai under the radar. Parce que tout le monde aura dans la National League, tout le monde aura les yeux rivés sur Atlanta et sur Los Angeles. Eux, ils vont faire leur trou. Ils savent que là aussi, ils n'ont pas le choix. Il faut gagner le titre de division pour aller en play-off. Parce que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, les places de wildcard vont se jouer ici. Eux, ils doivent gagner. Ils doivent gagner la division. Et avec... comment dire ? Avec Steele plus... un Imanaga qui confirme le potentiel qu'on a pu voir et qui s'avère être un vrai support à Steele, les Cubs ont absolument tout ce qu'il faut pour être champion de division, pour aller en playoff et pour être une épine dans le pied. Les mettre favoris pour le titre, non, parce que ils n'ont pas l'effectif calibré pour. Ils ont re-signé Cody Bellinger. Et ils ont tout ce qu'il faut. Alors oui, Stroman est parti, mais au final, sa contribution était plutôt limitée l'année dernière. À voir, parce que ça peut cliquer très bien et ça peut être la bonne surprise dans la National League, vraiment.
Moi, je pense que Steele va pas voler la place, mais va la prendre. Légitimement à Taylor, qui pour l'année dernière était l'ace, on va dire. Enfin, c'était pas l'ace parce qu'il y avait Stroman. Mais là, s'il revient de blessure, Ben, Taylon, je pense qu'il va être numéro 2, si Steele fait des départs canons. Voilà, tout simplement. Faut laisser la jeunesse se faire. Et là, franchement, moi, il m'a bien plu, ce lanceur, en tout cas. Donc, là, les Cubs, ils ont deux, trois lanceurs partants pour leur match qui devraient tenir. Voilà, maintenant, après, on sait très bien que ben, y a les blessures, il y a l'effet de jeu qui rentre en compte, tout ça, et c'est la beauté du sport. Donc, on attend. Et franchement, je me fais pas d'inquiétude pour eux au début sur leur qualité de lancer. Voilà. Et on finit, bah on en a déjà parlé tous les deux avec les CO Series, mais voilà, c'est sûr qu'on met les Dodgers sur le devant. Donc bah, il y a avec Yamamoto, bien sûr. On l'a refait, hein. Allez, Yamamoto, t'as pas lancé les CO
Allez,
Series, on va commencer pour de
il n'y a
vrai.
pas eu les séries,
Hein,
on
voilà.
commence vraiment à partir des Cardinals et on met de
Voilà.
côté ce qu'on a pu.
C'est ça. Glasnow, lui, contrairement à Yamamoto, qui a fait quand même une belle sortie contre les Padres. Hein. Donc, franchement, c'est une bonne surprise. C'est un très bon joueur. Donc, c'est vrai que j'ai hâte de le voir quand même évoluer à Los Angeles, quand même, qui est sous le feu des projecteurs. C'est sûr
Ah bah oui,
qu'il était à
c'est pas
Tampa.
tant pas, hein.
Ouais, voilà. Tampa, c'est pas le Tropicana Field. Enfin,
Non.
voilà, c'est sûr que là, il va être un peu plus sous les feux médiatiques. Et après, ils mettent Bobby Miller, James Paxton et Gavin Stone. Alors, toujours des blessés, avec Walker Buehler et Emmett Sheehan. Voilà, sur la liste des
Et Clayton
blessés.
Kershaw.
Et Clayton Kershaw, bien sûr. Ce qui permet à Stone de potentiellement décrocher la cinquième place de titulaire. Enfin, titulaire, le cinquième sur la liste des partants. Voilà. Donc, on va pas refaire le débat du début sur les lanceurs des Dodgers. Comment dire, comment on dit déjà à l'école? Peut mieux faire.
Ah ouais, ah ouais,
Encouragement, voilà.
ah
On a
ouais,
les
là
encouragements.
c'est réellement peut mieux faire, mais
Ouais,
vraiment,
c'est ça.
c'est vraiment peut mieux faire. C'est dommage parce que bon, il y a les affaires extra-sportives qui sont venues compliquer un peu la tâche avec Urias, qui était vraiment un super lanceur. Kershaw qui, un, se blesse, et deux, moi je trouve quand même que, ok, Kershaw reste Kershaw, ça reste un excellent lanceur et tout ça, mais l'année dernière, il y a quand même eu une perte de vitesse, littéralement, hein, c'est même pas pour dire l'expression, c'est littéral. Perte de vitesse dans ses lancers, on voit que les balles sont moins rapides, il y a moins de rotation. Moi, autant j'avais pas trop d'interrogations côté alignement, autant j'en ai quand même beaucoup sur la rotation. Et en plus, et je peux pas ne pas penser à ce qu'on a vu depuis 2 jours. Où je me dis qu'en fait, même derrière,
Allez, releveur,
catastrophique, ça va être long. Ça va être long. Ils ont intérêt à avoir soit que ton lanceur partant te sorte 7 manches minimum sans trop te concéder de points, et que ton run support était là et que du coup tu as une avance relativement confortable, sauf que ce ne sera pas le cas tout le temps. Sinon, tu vas au-devant de matchs où eh ben ouais, tu vas faire travailler énormément ton bullpen. Et peut-être que, et on l'a dit, il faut laisser le temps à Yamamoto. Si Yamamoto revient au niveau auquel on l'attend, bon, bah, ils ont Glasnow et ils ont Yamamoto. Donc déjà, ils ont deux très bons lanceurs sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer. Kershaw va revenir, Buehler va revenir, et puis il y a les autres qui seront là, qui vont pouvoir faire aussi leur travail et sans doute le faire de manière tout à fait convenable.
Ah, tout à fait.
Mais par rapport à tout ce qu'on a dit chez les favoris depuis tout à l'heure.
Oh. Ah bah eux, c'est les derniers de la classe, hein. Les favoris. Hein.
Bah là, franchement.
Il n'y a que Glasnow qui tire l'équipe vers le haut, là.
Sinon, s'il n'avait pas pris Glasnow,
ouais.
Tu peux même pas les considérer comme rotation top 5. Ouais. C'est impossible. C'est impossible. Moi c'est vraiment ça me fait sacrément flipper, surtout après le match 1 et 2 qu'on a vu. Hein. Oh, ouais. Oh, y. Mais bon,
c'est vrai.
C'est un marathon, il y a du temps, il y a largement de quoi se relancer, mais attention, hein, on est à 10,5, la moyenne c'est 10. Hein. Donc, le passage au niveau supérieur, hein, ouais. Si on reprend les conseils de classe de nos copains du podcast N1, le conseil de classe chaque mois, là c'est vraiment peu mieux faire, vraiment, vraiment peu mieux faire. Là, surtout dans une division où t'as Blake Snell qui vient de débarquer, enfin qui reste du coup et qui débarque chez les Giants, où eux du coup ils ont le Cy Young le 1 et 2 de 2023.
Coucou.
Voilà.
Coucou. On est là. Coucou Los Angeles. Ouais. Ça va être intéressant cette National League parce que on reprend vite fait les pitching match-up. Alors avec Atlanta, on a donc ils seront opposés aux Phillies. On a Zach Wheeler contre Spencer Strider.
Direct.
Rien que ça, déjà direct voilà. D'entrée. Donc ça, voilà, d'entrée de jeu.
Ça pose le décor.
On a le match de la bête noire. Voilà, c'est ça. Un premier match. Ouais. Donc rien que ça. Les Dodgers, eh ben, ils vont, comme on a dit, à Saint-Louis, où ils affronteront le moustachu Miles Mikolas. Là, on n'a pas encore le nom du partant de LA. Et on arrive donc sur la fin, donc c'était les Cubs, un joli match-up entre Nathan Eovaldi et Justin Steele.
Très joli aussi.
Donc, ouais. Rangers contre les Cubs.
J'avoue.
Ça va être un bon match.
Les Cubs qui du coup ont le privilège d'affronter les champions en titre pour l'ouverture de la saison. C'est ça. Mais j'avoue que le Strider Wheeler,
on est sur une affiche post-season d'entrée. Voilà.
Voilà. Donc, pas beaucoup de points. Hein. Si vous avez envie de. Il n'y aura pas beaucoup de points. Hein, qu'on se mette d'accord. Il n'y aura pas beaucoup de points.
Et le mieux, c'est qu'il est à 18h05 ou 19h05 le match. Parce qu'il est à 3h05 p.m. Eastern Time. Donc, il est en début de soirée.
19h. Voilà. Non, 18h. Bah, 18h05.
Ils n'ont pas changé d'heure, les États-Unis aussi?
Ils ont changé, mais nous on n'a pas changé. Mais c'est pas ce
week-end qu'on change. Non,
c'est le week-end d'après.
Je crois que c'est ce week-end d'après, peut-être.
Ouais, donc c'est bon, 18h05 du coup.
De toute façon, 18h-19h, on est sur début de soirée chez nous.
C'est pas grave, on prend.
Sortez les biscuits apéro, on a du croustillant à vous préparer pour le spécial opening day. Ouais.
Il y aura du très très lourd. Il y aura du très 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 lourd.
Voilà.
On a parlé des lanceurs. On a beaucoup parlé de lanceurs et on a dit qu'il y avait beaucoup de blessés, beaucoup de aces qui sont blessés. Gerrit Cole, Clayton Kershaw, Scherzer, Lucas Giolito. La liste, elle est. Vous pouvez dérouler.
Je t'en rajoute. Hein. Gerrit Cole, Kevin Gausman, Kodai Senga. On a dit Verlander, Scherzer, DeGrom. On rajoute un petit Gavin Williams, Tash Bradley, Kyle Bradish, comme on l'a dit. C'est dur. Hein.
C'est lourd. Ça fait beaucoup.
Gavin Williams, Johan Durand, David Bednar. Oh là là, c'est. Là, même les closers, ils sont en PLS. les équipes, je crois.
Alors, à quoi c'est dû? Si on écoute Scherzer. C'est la pitch clock.
Oh, si... Tu ressors un dossier de l'année dernière, là.
Ah, ouais, là c'est hyper persiste et signe. Hein. Hyper persiste et signe. C'est la pitch clock. Est-ce que une fragilité de génération Est-ce que, franchement, la question de la pitch clock, elle était légitime l'année dernière quand elle est arrivée, où ça a été la grosse question. Est-ce que le fait de presser les lanceurs faisait que tu avais moins de temps de récupération pour entre deux lancers, donc tu stressais un peu plus les articulations, les muscles? Au final, on a vu qu'il n'y avait pas eu autant de blessés que ça, plus par rapport à l'année dernière. Bah, c'est les chiffres, hein. Moi, je me dédouane, hein. C'est les chiffres de la MLB. Est-ce que ça n'a pas une petite incidence quand même?
Honnêtement, ça fait partie du pourcentage de joueurs qui doivent être blessés durant une saison, je pense. Après, je vais faire un calcul savant mathématique de combien on a de lanceurs en MLB, mais je pense qu'on doit s'approcher du 300, peut-être 400, voire même plus même.
Ouais, ils ont une armada. Ouais, 15, ouais, tu dois être à 400, 450 hein, quasiment. Hein.
Allez, c'est sûr que l'injury list sur les 10 jours, 20 jours, une semaine, c'est sûr que oui, il y en a des blessés. Mais des longues blessures, donc longues maladies, je pense qu'on doit pas être à moins de 10%. Je pense qu'on doit être à moins de 10%. Donc, franchement, est-ce que c'est surtout la qualité du lancer? Est-ce qu'on est toujours à la quête de la recherche en permanence du lancer le plus fort, du lancer le plus nasty, du lancer le plus, voilà, comme je dis nasty, le plus fourbe? C'est la position des doigts, la position du bras, c'est incroyable comment le corps humain peut lancer une balle, une petite balle à autant de kilomètres heure. C'est surtout ça. Il faut se poser la question sur ça.
Je suis d'accord sur la quête de la vitesse où maintenant on le voit avec la nouvelle génération qui arrive et Paul Skenes, hein, le numéro 1 de la draft 2023,
il lance hyper
qui lance, mais qui lance à une vitesse. Mais c'est impressionnant. La balle rapide à plus de 102, mais...
Le pire, c'est que pour ceux qui l'ont suivi à LSU, la balle à 102 mph, il la lance sur 40 lancers.
Oui, c'est
et
pas...
Il en produit 90 par match.
C'est pas 3-4 lancers juste pour dire. C'est régulier en plus. Ouais, lancer des choses comme ça de manière régulière, tu sollicites à une pression bien plus importante des muscles, des articulations. On le voit, enfin, regardez au ralenti la courbure des bras des lanceurs. Le faites pas chez vous, vous allez vous faire une luxation de l'épaule, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Je prends l'exemple de Mathias qui a une élasticité au niveau du bras qui est...
Il travaille pour ça, de toute façon.
Il travaille et qu'il a de manière naturelle.
Tout à fait.
C'est pas humain. Enfin, le bras, il part derrière, il arrive à revenir. C'est incroyable. La position des doigts, effectivement, entre prendre avec comme une fourchette ou vraiment juste sur deux ou juste comme ça, il y a... c'est pas des positions qui sont naturelles, donc forcément le nombre de Tommy John surgery, donc la fameuse opération du nom du médecin qui l'a pratiqué pour la première fois et qui est de plus en plus courante, à savoir que j'ai vu passer une stat, un lanceur aujourd'hui en MLB l'a au moins une fois dans sa carrière.
Ouais. C'est comme le foot, si t'as pas fait les croisés,
tu passes sur le billard pour ton coude au moins une fois en carrière.
C'est le sport.
C'est
le sport.
Tu sais que quand tu commences, tu vas y avoir droit. C'est sûr. Quand ? C'est le mystère. Et la recherche, effectivement, de la balle rapide, du lancer qui courbe de manière indécente ou autre, bah oui, je pense que plutôt que la pitch clock, il faut peut-être regarder là-dessus. Parce que après il faudrait regarder de manière bien précise le nombre de la vitesse moyenne des lancers dans les années 80, dans les années 90.
Oui, après l'arsenal qu'ils ont, c'est sûr.
L'arsenal n'est pas voilà. Mais oui, sans doute ça. Alors que les lanceurs n'ont jamais, enfin aussi peu lancé longtemps dans un match, le nombre de complete games réalisé. C'est... Il n'y en a quasiment plus. Il n'y en a quasiment plus.
Ouais.
Alors que la MLB, en plus, et la MLB a envie de qu'on voit plus longtemps, plus souvent, les lanceurs partant. Donc d'un côté, tu as plus... enfin, tu as des blessures qui deviennent récurrentes à certains endroits, etc. Et de l'autre côté, tu veux les faire jouer encore un peu plus. Chris le disait dans le podcast la semaine dernière, un lanceur, il y a une routine qui est bien définie. Je lance, je ne fais rien le lendemain, je recommence un petit peu le surlendemain, etc. C'est une mécanique qui est bien huilée et qui est nécessaire. C'est pour ça qu'une rotation, ils sont 5. À un moment donné, pas sorti du chapeau, c'est que c'est nécessaire. Si tu veux que ton mec fasse 30 départs dans la saison, enfin,
tout à fait.
Sur 162 matchs, hein, on est sur des joueurs qui vont lancer 30 fois dans une saison. Si tu veux que le mec fasse ça, bah, tu es obligé de passer par ce rythme-là. Et si on déroge à ça, tu peux être sûr que là, par contre, l'injury list
explose. Elle va un caillou dans l'engrenage et tout s'effondre.
Là, ce sera terrible. Ce sera contre-productif pour la MLB parce que bah oui, on a envie de voir, Gerrit Cole, Strider, Blake Snell, Yu Darvish, Yamamoto, Otani. On a envie de les voir lancer.
Ah bah, ils construisent leur match-up avec les lanceurs. Hein. Alors, ok, les batteurs, d'accord entre eux, mais c'est surtout les lanceurs. On le voit, hein. Pitching match-up est hyper important. Hein.
Bien sûr.
Il est mis sur un piédestal aux États-Unis, c'est sûr. On a peut-être un premier élément de réponse dans notre débat des blessés. Ace,
la manière dont on élève aujourd'hui les jeunes lanceurs vers il faut que ta balle rapide, si ta balle rapide elle atteint pas 100 miles à l'heure, bah écoute,
ça va être imagine compliqué. Le cahier des charges aujourd'hui, c'est compliqué.
Alors que perso, je préfère un lanceur avec 3-4 lancers différents, bien équilibrés, une balle courbe, pourquoi pas une sinker, pourquoi pas une knuckle. La knuckle, moi, c'est ma balle préférée, là, qui vole comme ça. Je trouve ça presque poétique. Et une balle rapide à 96-97.
Ça suffit.
C'est déjà largement suffisant. C'est déjà largement suffisant. Alors oui, c'est pour les highlights, c'est cool. Oh là là, 102 miles à l'heure, 104 miles à l'heure. Ouais, super. Le mec, dans 3 jours, il va se péter le coude parce qu'il se sera démis l'épaule parce qu'il aura lancé à 105. Il dira, ouais, mais il lance à 105. C'est bien.
Eh oui.
Mais bon, c'est comme ça. C'est comme la mode des grands NBA ou comme certains physiques dans certains sports plutôt que d'autres. Et puis, tu as toujours le contre-exemple qui vient te montrer que, bah, en fait, il n'y a pas besoin de tout ça pour réussir.
Fait.
Pour conclure notre épisode hebdomadaire de First Pitch, eh ben, on va passer du côté du jeu vidéo. Parce qu'avec Jérémy, depuis une semaine, on vous a dit, on a poncé. Ouais, la console, elle a un peu chauffé pour tester MLB The Show 24. Alors, aujourd'hui, il n'est pas question qu'on vous dise l'intégralité de notre avis sur le jeu, chaque chose en son temps. On veut faire les choses bien. Il y a un test en article qui arrive. Il y aura des vidéos aussi qui seront faites sur qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a un peu moins aimé. Mais aujourd'hui, juste un petit sneak peek, Jérémy, de MLB The Show 24 avec... des petites nouveautés, hein. Vous les avez vues en article un petit peu de manière sporadique avant le lancement du jeu. Nous, on a eu la chance, et je remercie Sony, j'en profite, Sony de nous avoir filé des copies du jeu vendredi dernier, donc quand même 4 jours avant la sortie. On avait le early access, un petit peu privilégié. On vous calme, on n'a pas eu les mêmes packs que les packs de MLB The Show, absolument incroyables, avec la casquette Negro League, le livre et tout ça. En France, on n'a pas le droit encore. On n'a pas encore le droit à ça, mais ça viendra. Ça viendra. On aura le droit à ça un jour. Mais c'est cool parce que du coup, on a pu tester un petit peu avant le grand public le jeu. Et première réaction, on va pas vous spoiler, hein, mais globalement, il y a quand même pas grand-chose qui change.
Ah non, c'est le compte FR de Atlanta Braves qui nous posait la question sur X en fait l'autre jour. Voilà, il attendait un peu notre réaction pour voir s'il gardait le 23 ou s'il prenait le 24. Si vous aimez les histoires, les nouvelles histoires, ou vous remémorez des histoires de baseball, le 24 a un mode de jeu qui fait aimer le baseball et l'histoire du baseball. Voilà. Après, si vous voulez juste faire du Diamond Dynasty ou du March to October, ouais, c'est sûr qu'on reste sur la même mouture que 2023. Et toujours en anglais, malheureusement.
Ça, c'est toujours la grosse question qu'on a. Et il est en français. Non, c'est toujours en anglais. Les explications sont en anglais. Tout est en anglais. Graphiquement, c'est ce que je disais dans le live que j'ai fait cette semaine. Bah, graphiquement, vous l'avez vu, il n'y a pas grand-chose non plus qui change. Hein. C'est très beau. Hein. Attention, on n'est pas en train de dire que c'est pas digne de console next-gen. Quelques détails quand même, mais on n'en dit pas plus, on garde pour le test. Que détails qui chagrinent un peu. Vraiment, c'est pareil, le fielding. Il y a quelques petites différences. Pour les frappes, c'est exactement pareil.
La même chose, ouais.
Le lanceur, c'est exactement la même chose. Donc voilà, storylines, comme tu disais. C'est vraiment le... la réussite.
Bon plus.
Enfin, là, bon plus.
Ouais, ouais.
Avec les Negro Leagues et Derek Jeter.
Ouais, mention spéciale à Derek Jeter, même si je ne suis pas un fan des Yankees, mais franchement.
C'est très bien construit.
Super bien bossé.
Vous verrez si vous y jouez, c'est vraiment très, très bien construit. Ouais. On se replonge. Si vous avez vu en plus la série documentaire sur Jeter, ça va quand même vous rappeler beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On est un peu sur cette même veine. On voit beaucoup Derek Jeter parler, que ce soit de lui. Mais il n'y a pas que lui. Voilà. On n'en dit pas plus. Il n'y a pas que Derek Jeter dans cette storyline-là. Et c'est ça qui est sympa. Et c'est que c'est en plusieurs parties. Donc là, moi, j'ai terminé la saison 1. Il va y en avoir d'autres qui vont arriver et qui vont retracer voilà, toute la carrière, les moments iconiques de cet immense joueur que, en plus, on peut se vanter. On l'a vu à 30 cm de nous,
c'est vrai.
Au mois de juin dernier,
c'est vrai.
À Londres. Donc, c'est vrai que ça fait bizarre de voir quelqu'un que tu as vu en vrai.
De nouveau la télé.
Petit côté groupie. Mais voilà, le test complet arrive. On va pas en dire plus. Moi, ça me botte toujours autant d'y jouer. J'y prends autant de plaisir. C'est pas la question.
Pour celui qui aime le baseball, c'est le jeu de référence. Et puis, quand bien même 70€ sur une année, bah d'accord, mais au moins, ça fait. On paye le travail des développeurs qui, tout au long de l'année. Font des recherches, travaillent, développent. Oui, certes, pas forcément le gameplay, mais après, sur les histoires et sur les autres.
Voilà, il y a d'autres aspects du jeu. Autres modes de jeu. Voilà, il y a les autres modes de jeu. Il y a ça aussi.
Mérite de le rappeler quand même, c'est le travail des personnes.
Voilà. Tout à fait. Donc voilà, donc il est disponible sur. D'ailleurs, je viens de voir un tweet de MLB de Show qui annonce que pour toute copie achetée, que ce soit. Je ne sais pas si Standard est compris dedans. Je me le remets. Parce que je l'ai vu tout à l'heure.
Ah, The Show, ils sont sur les contenus, c'est toutes les semaines, tous les deux jours.
Il y a du contenu tout le temps. Ça, vous inquiétez pas là-dessus. Storylines. Non. Alors, hop. C'est available.
C'était pourquoi pour l'achat.
Voilà, ils vont donner $1 pour chaque Negro League Edition, Digital Deluxe et MVP Edition. Ah oui, mais c'est aux US, donc ça ne nous concerne pas. Voilà.
L'édition Deluxe, oui, sur le PS Store, vous pouvez, ou même sur les autres stores des consoles, vous pouvez l'avoir.
Oui, on peut avoir les. Ouais. Voilà. Bon, vous aurez juste pas
c'est
le.
Ça.
Les
la casquette et tout, ouais, c'est sûr.
Voilà, c'est petit. Dommage. Voilà. Dommage. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est disponible sur Xbox et sur PlayStation 5 et 4.
Donc. Je vous prépare ça.
Mais le test arrive bientôt, donc soyez aux aguets. Mmh. Le test arrive bientôt.
Et avec Charles de la coop en 2-2.
Oh oui, on va vous montrer nos talents. Alors, pas mes talents à la frappe, hein, puisque je swing tout ce qui bouge. Hein, c'est pas nouveau. Mais par contre, au lancer, je dois dire que.
Un tueur.
Je suis un ace. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, ce qui est déjà pas mal, hein, 1h15. On avait de quoi parler. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un spécial Opening Day, bien entendu. On va faire le tour des match-up pour les matchs de jeudi. Vous donner un petit peu, nos avis sur ces matchs-là. Vous retrouverez donc le podcast la semaine prochaine, comme toutes les semaines. Ce sera toutes les semaines comme ça.
C'est parti.
C'est parti. On est lancé. First Pitch sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, toutes les plateformes. Et surtout, en fait, je le répète, les écoutes, c'est une chose et c'est très, 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 très bien. Et vous êtes nombreux à le faire. Ça, c'est cool. N'hésitez surtout pas à noter le podcast, à mettre les 5 étoiles et à laisser un petit avis sur les stores, sur les plateformes de podcast, parce que ça nous donne aussi de la visibilité et de la force. Ça récompense aussi le travail, que ce soit celui de Jérémy, celui de Nico, Chris, qui du coup n'était pas là cette semaine avec moi, mais voilà, je le salue, il était avec Bean pour les Seoul Series. Et puis voilà, ça nous donne de la force, comme on dit. Merci Jérémy.
Merci Charles. Et surtout, n'oubliez pas, notez et commentez.
C'est ça, commenter. C'est surtout ça qui compte. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de First Pitch, votre podcast MLB des équipes de TF1. Salut tout le monde.
Ciao, bon week-end.